yeah, oh yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Woo!
Une bonne chanson reflète assez fidèlement le quotidien matériel, sentimental ou idéologique de son compositeur. Certaines sont politiquement engagées ou parlent des tumultes de la vie. D'autres encore parlent de moments précis qui ont marqué son auteur. Et bien souvent, ce sont les passages liés à la relation amoureuse qui sont évoqués. Triste à cause d'une rupture, heureux, joyeux, euphorie d'amour ou de sexe, mélancolique d'une relation qui a du mal à démarrer, agressif par jalousie. L'amour en général a fait naître des milliers de chansons, tous styles de musique confondus, à toute époque et dans toutes les situations. Mais pourquoi autant d'entrain à créer autour d'un sujet tarte comme celui-là ? Peut-être parce qu'aimer et faire de la musique sont les deux choses qu'Homo sapiens a toujours su faire de mieux. Mais aussi parce que le sentiment d'amour et chanter, créer de la musique sont des caractéristiques universelles au monde du vivant. Certains animaux chantent pour séduire, les oiseaux passent leur journée à créer une forme de symphonie parfaite, jalousée par tous les musiciens. L'homme, lui, chante et parle d'amour, sans doute pour se rassurer de sa propre animalité, à un moment où il se rend compte qu'il est définitivement seul, volontairement détaché du monde animal, éternellement différent. Nouvelle saison radiophonique sur Studio Zef, nouvelle émission de The First Time I Met the Blues. Aujourd'hui, c'est l'amour évoqué dans la musique.
Bienvenue à tous, The First Time I Met the Blues. Super Timo, hein, ton speech là pour The First Time I Met the Blues sur Studio Zef. Donc bah, là, on lance la saison avec une émission consacrée à l'amour, un terme fédérateur, tu l'as évoqué.
Universel, anthropologique.
Exactement.
J'aime bien ce mot-là.
Ouais, et cette année ça va être un peu différent de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de rester accroché uniquement au blues et de diffuser uniquement du blues durant notre émission.
Oui, mais cependant nous allons quand même passer des choses qui sont pas très éloignées du blues et notamment d'autres artistes qui ont été profondément
marqués par
ces influences-là musicales. On va pas passer de du reggae non plus quoi. Oh quoique, pourquoi pas.
Enfin, c'est
une bonne idée ça.
Ouais. Redeem Station. Ouais, bref. Donc là on commence avec Etta James, hein, la chanteuse de blues, de jazz, de rhythm and blues très connue. Et le morceau qu'on vous propose là, c'est Timo.
Oui, donc c'est I Want to Make Love to You.
I Just Want to Make Love to You
de Etta James. C'est son album, l'un de ses premiers, je crois, At Last. Mmh. Voilà, 1961.
Album enregistré avec toujours les producteurs Chess.
Oui, c'était Chess Records. Ouais.
Évidemment.
Chess Records, une chanson qui a été notamment beaucoup jouée initialement, qui a été jouée par Muddy Waters, composée par Willie Dixon, enfin la vieille équipe. Quoi. Voilà.
Exactement. Et donc, juste pour revenir sur le personnage d'Etta James, je vous rappelle que c'est quand même une chanteuse qui a eu près de 60 ans de carrière. Alors bon, elle est née...
Une grande dame de la chanson. Ouais.
Exactement, elle est née à Los Angeles en 1938. Elle a eu des débuts de vie un peu compliqués. Une mère qui l'a eue à 14 ans, père inconnu. Elle a été ballottée de foyer en foyer. Et puis en fait, à 12 ans, évidemment, tous les chanteurs et chanteuses qu'on vous propose d'écouter dans notre émission, c'est des gens qui ont toujours commencé à l'église en fait à chanter. Mmh. C'est là qu'ils ont été remarqués et puis ensuite un peu élevés, emmenés.
Etta James qui est jouée par dans le film Cadillac Records, on a souvent pensé par Beyoncé. Voilà.
Exactement, tout à fait, qui est très bien Beyoncé d'ailleurs.
Ouais, carrément. Ouais.
Très bien.
C'est dire l'importance de cette chanteuse. Voilà.
Exactement, et donc elle a eu quand même, donc à 12 ans elle a été remarquée lorsqu'elle chantait dans un chœur à l'église, mais bon, son début de carrière a été assez compliqué. Hein. Elle passait de club en bar, ça marchait pas, ça prenait pas trop. Et puis en fait, c'est à Chicago avec Chess que là, ça a explosé. Et puis pour
Leonard Chess.
Exactement.
Voilà,
et elle a eu une fin de vie, comme la plupart des artistes, malheureusement.
Comme dans le film.
Un peu difficile. Voilà, elle a eu une vie loin d'être saine, un peu comme Big Mama Thornton dont on vous avait parlé dans une émission. Précédente, voilà, elle avait Alzheimer, hein, voilà, tout simplement, et puis quelques petits problèmes de produits stupéfiants.
Ouais.
Voilà, et du coup, ce morceau, Timo, comme tu as bien dit le titre tout à l'heure.
I Just Want to Make Love to You, Etta James, c'est l'album At Last, 1961.
Et je rajoute quand même une petite information au passage, cette chanson, elle a été utilisée pour une pub
d'une fameuse
marque de soda en 1996.
Vous allez certainement la reconnaître.
Exactement,
cette chanson,
et en fait, grâce à cette pub, enfin bon, grâce ou à cause ou enfin bref, selon le point de vue.
Coca-Cola Light.
Exactement, elle a été du coup ça a été un succès fulgurant et c'est là en fait où elle a été enfin la publicité du soda a permis de la remettre au bout du jour dans les années 90. Allez go. I don't want you to be no slave. Work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. Voilà, Etta James. Faut dire qu'elle est quand même assez motivée hein, quand elle chante et elle crie. Enfin non, elle chante.
Ouais, ouais,
je veux cuisiner. Enfin comment dire, je veux cuire ton pain. Je veux laver tes vêtements. Motivée, ouais. Bon, il y a quand même une certaine forme de soumission là.
Mais le morceau de.
Mais les paroles ont changé parce que, vu que c'est une femme qui l'interprète. Elle a fait quelques modifications quand même.
C'est vrai. C'était assez fréquent, ça, selon les... Il y a d'autres morceaux qui ont été faits, interprétés notamment par des groupes britanniques qui ont adouci les paroles assez machistes d'anciens bluesmen qui parlaient
américain,
des femmes. Américains, etc. Ouais. Enfin bref, c'est assez courant comme pratique.
Mais bon, là, voilà, elle est suffisamment amoureuse, en tout cas, pour vouloir...
Elle veut vraiment pas le laisser partir, quoi.
Voilà, exactement, ouais. Et là, on va passer au... grand bluesman, grand bluesman de tous les temps.
Le plus grand bluesman de tous les temps. Oui, c'est carrément. Une pointure, tu peux nous en parler, je crois.
B.B. King. Et toi, t'avais une petite expression là, non ? Un petit surnom pour B.B. King.
Oui, parce que je l'ai vu plusieurs fois sur scène et j'avais envie j'ai pensé directement à lui quand on parlait de l'amour et des chansons, parce que c'est Dr. Love, j'ai envie de dire, parce que sur scène, il plaisait beaucoup aux femmes, hein, malgré son quintal et demi, voire plus. il plaisait beaucoup aux femmes, c'était quelqu'un de très doux, très attentionné, même sur scène, il faisait des petits clins d'œil aux filles qu'il y avait devant. Il y a même une émission assez célèbre aux États-Unis où les gens appellent Donc lui, il joue avec son groupe et c'est les gens qui appellent et qui demandent « joue-moi tel morceau ». Il y a une scène assez célèbre où c'est une femme qui lui déclare sa flamme en direct. C'est assez sympathique. Voilà.
Ok, donc là, c'est B.B. King, « The Thrill Is Gone ». Alors lui, il n'est pas auteur hein, de cette chanson-là qui a été écrite dans les années 50.
Voilà, c'est une chanson qui a été écrite dans les années 50, en 51 plus exactement.
Précisément.
Donc par Rick Darnell et surtout Roy Hawkins. Qui a fait des chansons qui ont été reprises entre autres hein, par James Brown et Ray Charles.
C'est tout.
Excusez du peu, donc quelqu'un qui, voilà, qui avait l'habitude de faire de grandes chansons.
Donc là, elle a été écrite dans les années 50, mais B.B. King, lui, il l'a popularisée véritablement dans les années 70. Et d'ailleurs, quand il a interprété cette chanson-là, ça lui a permis quand même de sortir en fait, du public blues. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment les...
les puristes,
les initiés, voilà, qui le connaissaient et qui savaient que c'était un, véritablement un grand bluesman. Et là, grâce à cette chanson, enfin, vous l'avez compris, il a atteint un nouveau public, en fait, voilà, tout simplement. Donc, B.B. King, juste pour rappeler un petit peu le personnage,
oui,
hein, quand
voilà,
même, c'est
voilà,
toujours intéressant de faire une petite parenthèse historique. Il est né en 1925,
un illustre inconnu,
dans une plantation de coton, voilà. Et puis, ben, en fait,
il s'est mis à jouer de la musique.
Simplement, il a véritablement explosé quand même dans les années 50. Et notamment, j'ai lu qu'en 56, il avait fait quand même 342 concerts. S'il avait pu en faire 380, 400, il en a fait quasiment un par jour.
Il était reconnu pour ça, pour être une véritable bête de scène, quelqu'un qui jouait sur scène tout le temps. Et pour ceux qui ont eu la chance de le voir sur scène, moi je l'ai vu deux fois. À 80 piges, quelque chose comme ça. C'était un véritable showman. C'était complètement naturel pour lui d'être sur scène. Voilà, bon, mais c'est B.B. King en même temps. Il n'est pas devenu une légende.
Pour rien. Donc, c'est The Thrill Is Gone, une chanson qui a été reprise en fait suite à son interprétation à lui par de nombreux artistes comme Aretha Franklin, Little Milton. Donc, The Thrill Is Gone, ça veut dire que le frisson est parti en fait.
La plus belle chanson d'amour peut-être de l'histoire du blues.
Et ben, on l'écoute et puis on peut peut-être après dire un mot sur les paroles, quoique peut-être avant c'est plus intéressant pour y faire attention, je sais pas. Moi, j'ai juste remarqué en l'écoutant, en préparant l'émission, que voilà, il dit le frisson est parti. Il s'adresse évidemment à son amoureuse, enfin j'imagine quoi, avec la femme avec qui il partageait sa vie. Il lui dit
son mec, on sait pas.
Ouais, on sait pas, on n'en sait rien. Peut-être aussi. Voilà, il dit tu m'as fait du mal et un jour t'en seras véritablement désolé. Et ce thrill là, le frisson qui le tenait en fait, le poison. Tu parlais de poison aussi, Timo, tout à l'heure. Et ben il en est libéré. Voilà, il en est libéré, mais il n'en veut pas à la personne. Il lui dit, moi, je te souhaite
le meilleur. Voilà, exactement, c'est ça. C'est du B.B. King tout craché, voilà. Les dernières paroles.
C'est pas vénéneux, quoi.
All I can do is wish you well. C'est tout ce que je peux te... Tout ce que je te souhaite, c'est que ça se passe le mieux pour toi.
Ça aille bien.
C'est du B.B. King, une grande chanson, l'une des plus belles histoires d'amour en chanson. Eh ben, on écoute ça.
The thrill is gone.
Thrill is gone. The thrill has gone away. Thrill is gone, baby. The thrill has gone away. You done me wrong, baby. And you're gonna be so high someday. Thrill is gone.
Studio Zef
91.1
The first time I met the blues. Voilà, c'était The Thrill Is Gone de B.B. King, une chanson que vous pouvez retrouver sur le Live in Europe. Alors évidemment, toutes ces informations, on les met sur le site de Studio Zef, sur le blog de studiozef.fr. N'hésitez pas à podcaster nos émissions de l'année dernière, hein, surtout n'hésitez pas si vous partez en vacances, en week-end, que vous n'avez pas envie d'écouter
si
RTL.
Si vous vous ennuyez au travail.
téléchargez nos émissions. Et puis d'ailleurs, je lance un appel, hein, si vous entendez cette émission, si vous l'écoutez, est-ce que vous voulez bien nous mettre un petit mot sur Studio Zef? On veut faire un sondage, savoir s'il y a 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, aïe, 1000... 5000 auditeurs de l'émission The
Zéro.
First Time I Met the Blues. Voilà, studiozef.fr, The First Time I Met the Blues. Enfin bref, on enchaîne avec une chanson, un véritable hymne à l'amour.
Qui est devenu, oui, bien sûr.
Pas vraiment, mais.
Ouais. Bon, I Put a Spell on You, je t'ai jeté un sort. Donc, c'est une chanson qui est devenue. Un hymne du rock, tout simplement, ça a été repris par absolument tout le monde. Et cette chanson, elle a une histoire. C'est un certain Screaming Jay Hawkins qui l'a écrit. Donc, c'est un auteur-compositeur des années 50 R&B, voilà, aux États-Unis, qu'il a créé. C'était un personnage assez atypique, hein, Screaming Jay Hawkins, voire même un peu loufoque, vous pouvez voir sur internet. Il se déguisait, etc. Enfin, il était vraiment.
Ouais, il mettait pas genre des moustaches avec des os.
Assez loufoque, quoi. Assez spécial pour l'époque en tout cas. Donc voilà, cette chanson il a composé. Il est rentré en studio en 1956 précisément pour l'enregistrer. Et voilà, il avait pas envie de faire une session studio habituelle. Ça l'ennuyait en fait. Donc il a dit à ses musiciens. Faites pas comme si vous veniez enregistrer une chanson, faites comme si vous étiez venu faire un pique-nique. Voilà, visiblement c'est ce qu'il aurait dit. Bon, ok, donc un pique-nique à manger, à boire. Alors visiblement il y avait tous les alcools possibles et imaginables, et inimaginables même, je dirais. Voilà. Donc lui chantait, hein, il était chanteur. Donc ils se sont littéralement saoulés pendant des heures en
mais
faisant,
ça c'est pas bien,
hein,
faut pas le faire évidemment.
Oui, il faut pas le faire, mais bon, lui il faisait. Voilà. Donc ils ont réussi à sortir quelque chose, et le lendemain il a écouté les prises, il a dit c'est pas moi qui chantais, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Donc,
il se souvenait de rien. Quoi.
Voilà, et vu qu'à l'époque, déjà dans les années 50, une session studio ça coûtait assez cher, il avait pas trop le choix, donc le titre est sorti. Ça a cartonné littéralement aux États-Unis, notamment parce que c'était le début un peu de la mouvance beatnik. Donc voilà, tous les étudiants, notamment,
un peu des gens,
ça a complètement cartonné, ça a été vendu à 1 million d'exemplaires.
Ouais, mais je crois que même cette version-là, elle a été interdite de diffusion. Hein,
oui, c'est possible, parce que alors que les paroles ne sont pas forcément très
subversives,
mais ils grognent, enfin bref, c'est assez, très spécial. Hein, je vous invite, on le mettra certainement en ligne.
Oui, voilà, on vous raconte tout ça, mais c'est pas le morceau qu'on va vous
oui, c'est pas le morceau
vous proposer.
Ouais, voilà, exactement. Voilà.
Mais il sera en tout cas en ligne sur le blog studiozef.fr.
Mais voilà, on a pris la décision d'écouter la plus belle des versions, qui
exactement,
est celle de
Nina Simone.
Nina Simone, voilà, notre chanteuse préférée de l'émission, on la passe assez souvent.
Ouais. C'est clair, chanteuse, pianiste, voilà, elle a eu quasiment 50 ans de carrière, 50 albums en 50 ans, voilà, c'est plutôt une belle performance. Elle est née en 33 et puis elle est décédée en 2003 dans les Bouches-du-Rhône. Alors pour nos amis des Bouches-du-Rhône, voilà, vous savez.
À saucer les peignes, non.
Vous savez, j'ai pas le nom de la commune exacte, mais en tout cas, elle a fini sa vie en bord de la Méditerranée. Voilà, en fait, cette version-là, elle est un peu différente quand même, parce qu'il y a plus il y a des instruments à cordes,
oui,
des cuivres.
C'est vraiment elle, je pense, qui a donné le sens à la chanson. Ouais. I put a spell on you, comme je t'ai jeté un sort, comme on peut la comparer à une espèce de fée, ou une sorcière, non, enfin, un personnage magique qui jette un sort, on le ressent bien dans la chanson. Voilà, elle a très bien interprété.
Ouais, ouais, et puis elle, c'était quand même quelqu'un de remarquable, puisqu'elle a quand même lutté pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis.
Oui,
elle était quand même très impliquée dans les années 60. Voilà.
Surtout une très grande musicienne.
Donc, I put a spell on you, Nina Simone.
« put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine.
Tu es à moi, tu m'appartiens. Franchement, si t'as pas compris le message, quand elle le chante.
Ouais, tout à fait. Hein.
Nina Simone, et puis bah, là, en fait, on passe un registre un peu différent, c'est une balade.
Ouais, c'est une balade qui a été reprise par énormément de musiciens encore, puisqu'il s'agit de Blueberry Hill, notamment par le King Elvis Presley. Voilà, et là, on va passer la version de Fats Domino. Tu as quelques informations sur lui, je crois.
Fats Domino, ouais, bah en fait, si vous allez regarder sur Internet...
Un gros domino.
Ouais, il est assez dodu, ça, c'est sûr. Et en fait, il y a des photos où il a un grand sourire un peu charmeur. Tu dis, vachement sympa, ce mec-là, quand tu vois sa photo. On l'en mettra, d'ailleurs, sur...
Ouais, il a l'air sympa. Je me suis toujours dit qu'il était cool, ce mec, en
fait.
Ouais,
tu dis, mais il est vraiment sympa, ce mec-là. Bon, ouais. Il est toujours en vie, hein, malgré qu'il soit né en 28, quand même, à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Donc, il est issu d'une famille de créoles. Voilà, qui vivait dans les colonies françaises.
Ouais, French Creole, ils appellent ça. Donc, on a eu une discussion pour Guadeloupe, Martinique.
Enfin, ouais. Ça, on sait pas. En tout cas, ce sont les Antilles, ça, c'est sûr.
Ils ont immigré pour travailler dans une plantation dans le Mississippi, la Nouvelle-Orléans. Encore une fois, on revient toujours au même endroit.
C'est ça. Mm. Et donc, Fats Domino, lui, Boogie Woogie, précurseur du rock'n'roll quand même. Et puis bah voilà quoi, chant, piano, et tu disais qu'il avait donné des cours de piano à Elvis.
Oui, exactement.
En préparant l'émission, tu me disais
Oui, c'est pour ça que Elvis a joué Blueberry Hill aussi, il a dû lui apprendre au piano. Mais oui, donner des cours de piano au King, voilà, parce qu'il n'était pas pianiste pour un sou. Enfin voilà, Antoine Dominique Domino, voilà, c'est son nom de naissance. Voilà.
Et la première parole en fait de cette chanson, c'est encore on revient sur le thrill là.
C'est à la mode ça. Enfin c'est à la mode. Ils aimaient bien le frisson.
Exactement. Ben on vous laisse frissonner alors.
Voilà, Fats Domino, Blueberry Hill.
Found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill, when I found you, the moon stood still. My dream came true.
deep. But all of the vows you made are never to be. So we're apart. You fought on me still. Love, sweet melody. But all of the vows you made were only to be. Though we're apart, you thought of me still.
Blueberry Hill, reprise par Fats Domino en 1956, la version la plus connue, je pense.
Ouais, c'est pas d'une modernité folle non plus. Hein.
Non, c'est vrai, ça remonte un peu. Ouais. Mais on va passer sur quelque chose de un petit peu plus actuel, hein, puisque c'est Sonny Boy Williamson,
actuel,
une chanson qui date de 1963.
Un truc actuel, le mec, on sait même pas quand il est né, il est peut-être né à la fin du 19e ou tout début 20e, mais c'est tout à fait
Écoute,
actuel.
Écoute, j'essaye de vendre mon truc.
Ouais, hein, il est peut-être, il y a deux siècles, quoi. Enfin, tu vois, bref. Voilà. Donc voilà, Help Me, Sonny
voilà,
Boy Williamson.
Voilà, une autre chanson, l'idée c'était de voir un peu différentes phases de l'amour, différentes perceptions, dans la musique de la relation amoureuse, et là on bascule sur quelque chose de différent encore. Donc c'est la chanson Help Me, c'est un standard de blues, hein, dont la paternité revient officiellement à Sonny Boy Williamson,
qui était harmoniciste américain,
voilà, grand bluesman, composé par Willie Dixon. On le retrouve encore, celui-là, il est partout, hein, c'est voilà, enregistré la première fois en 1963, donc par Sonny Boy Williamson. Ça raconte une manière originale, voilà, de dire à quelqu'un je t'aime, puisque dans les paroles on trouve traduit, hein, donc tu dois m'aider, je peux pas faire tout seul, quoi. Tu dois m'aider, sinon je m'en vais, sinon je me casse, je dois trouver quelqu'un d'autre.
Ouais, mais voilà, je peux pas faire tout seul. Il parle quand même plutôt de tâches ménagères, quoi. C'est quand même
Il parle de tâches ménagères, mais je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça aussi. Je pense que c'est vraiment une chanson qui parle aussi de la difficulté de s'en sortir dans la vie en général.
Quand on est seul.
Voilà, quand on est seul, et surtout quand on est noir américain dans une Amérique pauvre des années 60, assez encore ségrégée. Voilà, donc voilà, bah, on y va. Help me, Sonny Boy Williamson.
I can't do it all by myself. You got to help me, baby. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash it. I may have to sew. I may have to cook. I might mop the floor. But you help me, baby. You know, if you don't help me, darling, I'll find myself somebody else. Help me, darling.
Studios F
91.1.
The first time I met the blues.
Help me, Sonny Boy Williamson.
On n'avait pas
grand
eu
blues,
énormément ouais. d'harmonica là pour l'instant.
On n'avait pas eu d'harmonica. C'est vrai. Voilà. Donc c'est grand de l'harmonica.
Exactement. Et là, on va passer aussi à un grand guitariste quand même. Magic Slim, voilà, un grand gaillard qui en fait a eu un parcours exactement comme tous les autres, tu vois. Parents métayers, lui métayer dans le Mississippi, et puis il en a marre, il part à Chicago, et c'est là en fait qu'il fait sa carrière. C'est dingue, en fait, ils sont tous issus du même.
Sweet Home Chicago. Ouais,
Sont tous quasiment issus du Mississippi, quoi. C'est quand même dingue, pourquoi
C'est le berceau du blues, hein. C'est pas pour rien qu'on a appelé ça comme ça. C'est les. Tous les grands bluesmen viennent de là-bas parce qu'il y avait une tradition du blues. Enfin bref, la grande histoire quoi. Le blues électrifié à Chicago. Enfin bref, voilà.
Et donc là, le morceau qu'on vous propose, c'est Crazy Woman. Alors franchement, là, Magic Slim, il était un petit peu énervé parce que, évidemment, le thème de l'émission, c'est l'amour dans les chansons. Et là, c'est de l'amour qui devient haine. Hein. En fait, bon, je pense qu'il y a quand même une frontière assez fine entre l'amour et la haine. On peut basculer de l'un à l'autre assez aisément. Et là, lui, voilà, il est vraiment pas content. Crazy Woman, il dit que sa femme, elle est complètement folle.
Elle est complètement folle, elle a le cerveau du noix. Enfin, c'est des paroles assez dures. C'est le blues quoi, total. Quand on dit t'as le blues,
c'est une interpression, interprétation de l'amour.
Oui, c'est ça. Mais là, il a le blues total. Sa femme lui convient pas. Il dit qu'elle est bête comme une noix.
Il dit ouais, je vais même aller m'acheter une caisse à outils parce qu'elle elle doit avoir quelques boulons desserrés.
Il peut pas s'acheter une voiture. Il s'est acheté une nouvelle voiture, mais elle est pourrie. Enfin bref. Il est vraiment dégoûté.
Ouais, c'est pas très très fin quand même. Mais bon, juste pour la petite histoire, Magic Slim, lui, il a commencé le piano à 13 ans. Et en fait, vu qu'il bossait dans les champs, suite à un accident avec une machine agricole, il avait perdu un doigt, enfin un morceau de doigt. Donc du coup, il s'est mis à jouer de la guitare. Et puis, ça, c'était dans les années 50, parce que lui, il est né en 1937. Et c'est vraiment 10 ans plus tard, 10 ans après être arrivé... à Chicago, voilà, donc dans les années 60, qui s'est véritablement fait un nom. Et puis il a fini par s'éteindre en 2013, voilà, donc c'est assez récent. C'était il y a 3 ans, et il avait quand même fait plus de 30 albums, donc un mec...
Oui, et un des dépositaires du Chicago Blues, ce fameux train, le chouchou, enfin bref, vraiment de la musique qui roule, qui ronfle, etc. Un guitariste assez véloce, quelqu'un qui envoie du lourd. Enfin, je vous propose d'écouter ça, tout simplement.
Crazy
Donc,
Woman,
ouais. Voilà, Magic Slim.
Crazy woman, She got a mind just like a goose. Yeah, I got a crazy, crazy, crazy woman. She got a mind just like a goose. I'm going out by me a toolbox. I believe that woman, she got some screws loose. She drank wine every morning. She drank wine late at night. Every time she come home, little girl, wanna fuss and fight. I got a crazy, crazy, crazy woman. The little girl, she got a mind just like a goose. I'm going down and buy me a toolbox. I believe that woman got some screw loose.
What wrong with that girl?
I give her all my money too. Sometimes I wonder, little girl, what the next thing that you gonna do. I got a crazy, 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 crazy woman. She got a mind just like a goose. I believe she got some screws loose.
Laisse avec ces quelques notes de Magic Slim, superbe guitariste. Vous avez reconnu pour les puristes hein, le son Fender. Et du coup, il jouait sur une Mustang, sur une Fender Mustang. En tout cas, pas tout le temps. Il était aussi adepte des Gibson. C'est peut-être une émission qu'on pourrait faire, ça, sur le son caractéristique des guitares. Il y a vraiment une nette différence entre le son Gibson et le son Fender, les deux marques de guitare à l'époque qui faisaient que se partager un peu tous ces grands bluesmen et qui ont participé à développer le blues, tout simplement. Bon, Leo Fender, enfin bref.
Mais si tu veux pas te faire accuser de publicité, il faut que tu donnes une troisième marque, en fait.
D'accord, ok, je peux citer une troisième marque de guitare.
Celle qu'on a vue hier, là.
Mettons Gretsch.
Voilà.
Je
sais pas.
Ouais, peux en donner d'autres. Hein.
C'est bon, là on a.
Je peux en donner d'autres si tu veux.
Non, mais là c'est.
Ouais. Non,
là,
ça
c'est
va.
Bon,
ça
on
va,
sera
ça
pas embêté.
Me lance pas là-dessus. Hein.
On sera pas embêté. Non, mais en tout cas, quand même, Magic Slim, c'est un bon gros son qui prend.
Oui,
franchement,
oui,
je vous conseille de l'écouter avec un casque.
D'écouter ça avec le casque et de l'ensemble de son œuvre, et notamment en live. C'est vraiment le Chicago Blues. Je sais pas s'il a joué à Chicago, mais c'est ce qu'on.
Bien sûr que oui, il a joué à Chicago, tu rigoles, mais c'était un des mais que, qui était ultra important sur la scène de Chicago.
En tout cas, le dépositaire de ce son black américain, enfin blues, on s'en fout de la couleur quelque part, mais de ce son-là assez puissant, assez lourd, voilà. Bref, je vous conseille de l'écouter.
Donc, comme on l'a annoncé tout à l'heure, on ne va pas passer que du blues dans cette émission.
Oui, bah là, pour le coup.
Là, franchement, on sort des sentiers battus, hein, voilà, que l'on connaît, balisés et lumineux. Donc là, c'est avec les Stooges. Voilà, il faut prendre un parti pris. I wanna be your dog. Donc, c'est quand même assez punk, hein, quand même, rock punk.
Oui, oui, bah, c'est ce qu'on appelle le proto-punk, les Stooges de l'époque. Iggy Pop, personnage assez
atypique, singulier.
Voilà, contrairement à ce qu'on pense, il a galéré, en fait, la majorité de sa vie. Il a été connu sur le tard. Aujourd'hui, on le voit comme une méga star, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup galéré pour monter ses groupes. Alors, au début, c'était The Stooges. Après, c'était Iggy Pop and The Stooges. Enfin, il a bricolé dans tous les sens. C'est Bowie, à un moment, qui l'a relancé. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup ramé, quelque part, pour faire sa musique, qui aujourd'hui nous plaît tant, mais qui, à l'époque, était quand même assez violente. Voilà. I Wanna Be Your Dog. Ou même le Funhouse de l'époque, ça plaisait pas à tout le monde, et surtout pas en France.
Et c'est quoi le Funhouse alors ?
Le Funhouse, c'est un des albums qu'il a fait avec les Stooges, et voilà, qui était déjà à l'époque avant-gardiste, dans le sens où on peut parler de proto-punk, et qui était... Ouais, même aujourd'hui encore, il y a des gens qui trouvent ça un petit peu...
Compliqué.
Pas compliqué, mais violent, quoi. Enfin, c'est assez rude, quoi. Voilà, c'est assez rude.
Donc là, on parlait d'amour jusqu'alors plutôt sentimental. Là, avec cette chanson-là, I Wanna Be Your Dog, voilà, on voit que c'est plutôt animal, l'amour animal. Donc,
oui, c'est un amour animal de soumission, c'est assez particulier. Hein. Mais ça fait partie aussi de la chose, on va dire.
Exactement, voilà. Donc je veux être ton chien. Et en fait, en préparant l'émission, parce que bon, voilà, des fois quand même, on se renseigne évidemment... avant de vous raconter des choses à l'antenne, et il était, on a regardé une vidéo où il était interviewé dans une émission américaine pas longtemps après la sortie du morceau, et en fait on lui a dit, le journaliste lui dit I wanna be your dog, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et lui en fait il dit t'es dans la rue, tu vois une nana bien fringuée qui te plaît, qui a un chien au bout de la laisse, t'as juste envie d'être son chien parce que t'as envie d'être près d'elle, etc.
La version édulcorée.
Exactement, et après, au fur et à mesure des explications, voilà, il finit par dire en fait, j'ai pas envie de te juger, j'ai pas vraiment envie de savoir qui tu es, j'ai juste envie de passer du temps avec toi, tout simplement. Et en fait, il utilise même l'expression, tu vois, I wanna dog you, tu vois. Ça devient un verbe, quoi.
Ouais.
Voilà, écoutez, on vous laisse découvrir.
Avec sa poésie. Non, et juste, je voulais souligner que c'est un titre qui date de 1969. Je crois que c'est le premier album des Stooges. Enfin, un des premiers. Enfin, oui, je crois que c'est vraiment leur premier album. Peut-être, il me semble bien, en tout cas, je crois. Hein.
Et on va vérifier pendant le passage du morceau.
Non, juste pour souligner la modernité du morceau. Et de parler de ça en 1969, c'est carrément dingue, quoi. Voilà, on écoute ça. I wanna be your dog.
Oh, man.
Studio ZEF
91.1.
The first time I met the blues.
Voilà une chanson assez proto-punk. C'est conceptuel, hein. C'est assez spécial. Enfin bref, tout le monde connaît ce morceau maintenant. C'est
évidemment devenu
un véritable hymne à la soumission.
Il a été utilisé quand même dans de nombreux films. Hein, donc on a...
Ouais, ouais, et d'autres versions. Je crois qu'il a été enregistré, enfin bref, rebricolé. Ça a été refait après. Ben voilà, bon, on va finir par un morceau que je trouve assez magnifique, qui exprime bien peut-être ce qu'on peut ressentir pour une femme. On va parler des Beatles.
Ou pour un homme.
Ou pour un homme, oui, tout à fait, ou pour un homme. C'est assez universel ce genre de sentiment. La chanson, c'est I Want You.
Des Beatles.
Donc voilà, des Beatles. Y a quand même une petite histoire sur cette chanson. Donc c'est tout simplement, voilà. John Lennon qui l'a composé. Elle est sortie en 69 sur l'album Abbey Road des Beatles. Un petit album vite fait qui passe comme ça. Le dernier album des Beatles. Ouais. Et voilà, il a écrit pour Yoko Ono, qui était sa copine à l'époque, sa femme. Et I Want You So Bad. Voilà, c'est les paroles. Tout simplement, je te veux tellement que ça me fait mal. Enfin, je t'aime tellement que ça me fait mal. Il y a très peu d'expressions dans la chanson comparé à une chanson traditionnelle des Beatles. Et c'était voulu par John Lennon parce que l'idée de base était que de faire une chanson qu'avec une seule expression, c'était le meilleur moyen pour lui, John Lennon, d'exprimer des choses complexes. Que son idée, c'était que les choses complexes doivent être expliquées simplement. Donc il y a très peu d'expressions.
Très peu de paroles.
Très peu de paroles. I want you so bad. Le morceau est assez long, donc on va vous laisser là-dessus. On a été contents de reprendre la reprise, hein, de repartir avec vous. Et voilà, c'est reparti pour une saison radiophonique.
The first time I met the blues. Et puis ben, une petite piqûre de rappel, hein, ça fait... pas de mal, ça ne fait pas de mal. N'hésitez pas à aller podcaster toutes les émissions réalisées par tous les bénévoles et non bénévoles sur studiozef.fr.
Ouais,
vos suggestions encore sont
ouais.
Les bienvenues. Franchement, si vous avez des thématiques qui vous tiennent à cœur, vous pouvez nous en faire part sans aucun souci. Et puis nous, on se fera un plaisir de les développer. Donc bah, on vous laisse avec I Want You des Beatles.
I Want You, un morceau magnifique. Voilà. I want to
profiter.
She's so heavy.